Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachnin. Quelque temps après, j'appris qu'il existait aussi un théâtre juif. Quelle fut mon envie de m'y rendre ? Je n'osais pourtant pas, cela aurait pu trop facilement être rapporté à mes parents. En revanche, j'allais souvent voir les opéras au Grand Théâtre et plus tard, je fréquentais aussi le théâtre dramatique polonais. Une brève période s'écoula, mais je n'avais pas de repos. Il y avait un théâtre yiddish à Varsovie et je ne le verrais pas. Enfin, je résolus de courir le risque, je jouais mon vatou et allais au théâtre yiddish.
J'en fus absolument bouleversé. Dès le début de la représentation, je me sentis tout différent de ce que j'étais chez les autres. Avant tout, il n'y avait pas de monsieur en frac, pas de dame décolletée, pas de polonais, pas de russe, rien que des juifs de toutes espèces, en caftan et en veston, avec des femmes et des jeunes filles vêtues à l'occidental. Et l'on parlait ma langue maternelle, à voix haute et sans se gêner. Personne ne remarquait mon petit caftan long et je n'avais pas du tout à avoir honte. On jouait une comédie dramatique avec chansons et danse en 6 actes et 10 tableaux, Baal Tshuva de Chomer. Le spectacle n'avait pas commencé à 8 heures précises comme au théâtre polonais, mais seulement vers 10 heures. Et il ne prit fin que bien après minuit. Le jeune premier et l'intrigant parlaient le haut allemand et je m'étonnais de comprendre si bien tout à coup un allemand aussi parfait, alors que je n'avais pas la moindre idée de la langue allemande. Seul le comique et la soubrette parlaient yiddish.
D'une manière générale, le spectacle me plut bien davantage que l'opéra, le drame et l'opérette tout ensemble. Car, premièrement, on parlait yiddish. Un yiddish allemand, certes, mais un yiddish tout de même. Un yiddish plus correct et plus beau. Et deuxièmement, la pièce réunissait tout, le drame, la tragédie, le chant, la comédie, la danse, tout à la fois, c'était la vie même. Toute la nuit, l'excitation m'empêcha de dormir, mon cœur me disait qu'un jour, j'entrerais, moi aussi, au service de l'art juif et que je deviendrais un acteur juif. Jean Baumgarten, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons évoqué le Purimspiel et le théâtre yiddish. Et nous nous étions promis de poursuivre notre conversation pour approfondir et faire mieux découvrir cette langue, sa culture et sa littérature. Et là, nous venons de reprendre ensemble une partie de ce très beau texte de Kafka qui s'appelle « Le théâtre yiddish », dans lequel il se met dans la peau d'un acteur yiddish, qui est son ami Yitzhak Levy. Et c'est très très important, à la fois pour sa propre création littéraire, on va en parler, mais de manière générale, pour son rapport à la littérature, au théâtre et au judaïsme. Jean Baumgarten.
Oui, c'est un moment vraiment très important. Dans la lettre au père, par exemple, il parle de ce judaïsme paternel, disons, fossilisé, enfin stérilisé. Il parle, quand il va à la synagogue, des rouleaux de la loi qu'il compare à des poupées aux têtes coupées, mortes. Enfin. Mm-hmm. Et la découverte du théâtre yiddish par Levy, d'ailleurs Levy était le nom de sa mère, mm-hmm. Donc c'est vraiment la découverte, comme il le dit, de la vie, de la joie. Et ça a eu une extrême importance dans son parcours intellectuel, à la fois en rapport avec la littérature et aussi avec un judaïsme d'Europe orientale autour et principalement en langue yiddish et qui, pour lui, évoque d'abord le vivant, enfin l'intime, le maternel, le féminin, puisqu'on sait qu'il avait un rapport privilégié avec des actrices à qui il offrait des bouquets. Il avait une relation extrêmement forte, non seulement avec Yitzhak Levy, mais aussi avec cette actrice. Donc, il y a aussi toute cette part affective, amoureuse, sentimentale. Et aussi, il y a, je crois, un rapport, comme sa découverte du racidisme, un rapport avec la joie, avec la vie, avec un judaïsme vivant, créatif. Et justement, là, il oppose très bien ce théâtre un peu figé, avec des costumes, entre guillemets, bourgeois, qui commence à une heure fixe, qui se termine à une heure fixe, avec ce déchaînement de force vitale, de personnages, d'improvisation, de danse, de chant. Et il parle de bouleversement et d'excitation. Et je crois que la découverte de ce théâtre a été aussi pour lui la découverte de la littérature comme c'était déjà chez lui, bien sûr, mais comme un aspect fondamental et central, un axe central, une colonne vertébrale de sa vie, et aussi un judaïsme du côté de la vie, de l'affectif et du féminin.
Et en même temps, je crois que c'est important, puisque c'est le thème de notre émission, ça lui permet de découvrir et de vivre, de ressentir la langue et la littérature yiddish. Il y a tout à coup, dans la découverte de ce judaïsme d'Europe de l'Est, une fascination pour cette langue qu'il a envie d'apprendre, au point qu'il va organiser des représentations de lectures de poèmes qui seront lus justement par son ami Yitzhak Levi, et il écrit un très très beau texte qui s'appelle « Discours sur la langue yiddish », où il raconte en fait l'histoire de cette langue et sa psychologie, et ce qui nous amène nous à nous poser la question et qu'est-ce que le yiddish, d'où vient cette langue, comment elle a évolué, quelle est son actualité, si on peut dire, ses locuteurs, et quel est son avenir. Un petit peu les mêmes questions que nous avons posées par rapport au Purim Spiel et que nous avons vu la semaine dernière, ces pièces de théâtre. Et je pensais en vous écoutant, et ça me saute aux yeux, quelque chose qui est presque une évidence et une grande nouveauté, je vous remercie pour cela. J'ai l'impression que tout le livre de la métamorphose est une forme de Purim Spiel, où il se déguise en un gros cafard, et personne n'a compris que c'est un livre sur le déguisement, et la preuve en est par le fait que ce gros cafard s'appelle en allemand « Ungeziefer », qui est justement le terme par lequel, dans la lettre au père, le père de Kafka nomme, pour l'insulter, son ami Yitzhak Levi, cet acteur yiddish. Et donc, cette langue yiddish qui fascine Kafka, d'où vient-elle? Comment naît-elle? Comment arrive-t-elle à Prague, et est-elle parlée dans l'ensemble de l'Europe de l'Est? Et là, dans le texte que nous avons vu, nous avons bien perçu à la fois la proximité avec le haut allemand et en même temps une très grande différence. Jean Baumgarten.
Alors, il faut dire que Kafka était dans un milieu multilingue où il y avait des déchirements entre le tchèque, l'allemand, l'hébreu, le yiddish. Et donc, il était dans ce plurilinguisme qui était un peu pour lui une source de déchirement et de souffrance. Et il faut dire aussi que pour son père, le yiddish était vraiment une espèce de langue bestiale, enfin une sorte de jargon absolument sans profondeur et sans intérêt. Et donc c'est à la fois le rejet de ce monde un peu figé du père, et c'est la découverte d'un judaïsme nouveau qui lui donne beaucoup de force par justement cette langue. Alors cette langue, c'est difficile d'en donner l'origine. Il y a beaucoup de linguistes, beaucoup de théoriciens qui se sont un peu déchirés sur l'origine de cette langue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Juifs, dans quelque endroit, dans quelque où ils se sont trouvés dans leur exil, eh bien, ont créé leur propre langue. Et ça, c'est un des traits de la tradition juive et des Juifs, c'est d'avoir, aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze, créé des langues juives, des judéo-langues, et qui étaient à la fois imprégnées d'araméen et d'hébreu, et qui étaient aussi beaucoup influencées par les langues mitoyennes. Et donc, c'est une langue dans laquelle il y a une fusion entre ces différents éléments, et qui existe dans le judéo-italien, dans le judéo-persan, dans le judéo-arabe et dans le judaïsme. et avec un double niveau. C'est-à-dire qu'il y a des langues qui sont réservées essentiellement à l'enseignement et qui sont un peu des langues calques, c'est-à-dire que pour enseigner la Bible aux enfants, notamment aux Haïder, et transmettre les grands textes de la tradition juive, eh bien, on crée des traductions calques, donc dans lesquelles on retrouve un peu la physionomie de l'hébreu pour permettre d'avoir accès au texte saint. Et il y a un deuxième aspect du yiddish qui est vraiment la langue parlée, la langue vernaculaire, la langue de la communication dans la vie quotidienne, et qui est née, alors, bon là, les théories divergent, mais disons, entre le 9e et le 13e siècle, alors il y a deux théories. Il y a une théorie selon laquelle des juifs venant après la destruction du temple, s'étant installés à Rome, ils ont suivi les armées romaines vers la vallée du Rhin. Et il y a eu les expulsions des juifs de France. Et donc là, se sont créées des communautés, notamment à Worms, à Spire, à Mainz, etc., dans ces grandes communautés de la vallée rhénane, où s'est cristallisée et s'est formée cette langue d'une fusion, d'une composante hébréo-araméenne, plus de l'allemand ancien, enfin du moyen haut allemand, et aussi des restes de langues romanes, que ce soit l'italien ou l'ancien français. Et ensuite, quand il y a eu des expulsions, eh bien, les Juifs sont allés vers l'Est d'abord, notamment vers Prague, vers la Bohême, la Moravie, puis la Pologne et l'Ukraine. Et donc, un ensemble de termes et d'expressions de ces langues slaves ont été intégrés au yiddish et qui a pris cette forme d'une langue dans laquelle fusionnent tous ces éléments, mais non pas pour former simplement une langue d'imitation, mais une véritable langue autonome avec son propre vocabulaire, sa propre syntaxe morphologique qui diffère de l'allemand et qui va donner lieu à toute une littérature extrêmement riche, non seulement une littérature ancienne, donc jusqu'à la Haskalah, et après la Haskalah, la littérature contemporaine, et qui font vraiment un ensemble tout à fait conséquent, à la fois de manuscrits et de textes imprimés, et qui vont être diffusés par le biais des imprimeurs dans les grands centres d'impression hébraïque, que ce soit en Italie, à Bâle, à Amsterdam, à Francfort, à Lublin, à Cracovie, qui va être largement distribués par l'intermédiaire de libraires et de colporteurs jusque dans les moindres shtetlers. Et donc cette production en langue vernaculaire aura une extrême importance pour transmettre et pour diffuser par le biais de la traduction les grands textes de la tradition juive, que ce soit la Bible, les Midrashim, des sermons, enfin des droshes, et aussi tout un aspect profane, notamment en Italie, où on trouve des chansons de gestes, des romans courtois. Et il y a notamment...
En yiddish.
Mm-hmm. Mais des milliers de vers. Alors, par exemple, il y a ce grand humaniste juif, Eli Barour Levita, donc, qui est surtout connu pour ses lexiques et aussi pour ses ouvrages sur la cantillation de la Bible, sur aussi les traditions de la Massora, mais qui écrivait aussi en yiddish. Il a écrit des poèmes satirique et aussi deux grandes épopées, deux grands romans courtois, le Beauvaubourg et le Paris Sunvin, des milliers de vers, donc inspirés par les modèles du roman courtois italien, mais judaïsés, et qui sont des ouvrages absolument magnifiques par la langue, par la truculence, par la richesse, l'inventivité verbale. Et on trouve aussi la même chose, par exemple, en Allemagne, où le livre de Samuel et le livre des rois ont été mis en vers en s'inspirant de la prosodie et de la métrique des épopées allemandes, mais pour un public juif. Et donc là aussi, on voit bien la porosité entre les littératures qui étaient connues et aimées, disons, dans les ghettos, dans les juiveries, et puis des traditions qui plongent dans les agadotes, dans les légendes, dans le récit biblique, dans les personnages bibliques. Et donc de cette fusion et de ce mélange a donné naissance à une littérature d'une très très grande richesse jusqu'à la Haskalah.
Et pourquoi jusqu'à la Haskalah? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là?
Alors,
rappelez d'abord qu'est-ce que la Haskalah, la date et...
Voilà, alors la Haskalah, disons que avant la Scala, donc au moment de la, bon, il y a beaucoup de manuscrits, mais au moment de l'invention de l'imprimerie, donc les Juifs ont beaucoup participé à cette diffusion et il y a eu beaucoup d'imprimeurs et aussi beaucoup de Juifs qui ont participé à cette aventure de l'imprimerie. Et à la fois les imprimeurs chrétiens et les imprimeurs juifs se sont rendus compte que parmi ce qu'on appelle les ignorants, les améharets au sens juif du terme, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas une connaissance suffisante de l'hébreu, eh bien il était important pour eux de diffuser, de transmettre un certain nombre de grands textes de la tradition, des commentaires de la Bible, Bible, prières, bilingues, araméen, hébreu et yiddish, des commentaires et aussi des textes mystiques et kabbalistiques, puisqu'on a aussi, par exemple, des traductions du Zohar en yiddish. Et donc, tous ces genres vont disparaître au milieu du fin 18e siècle, au début du 19e siècle, où la presse, où les mélodrames, où les feuilletons, où d'autres genres littéraires vont apparaître et vont être à l'origine des trois grands classiques de la littérature yiddish, c'est-à-dire Sholem Aleichem, Mendel, Moirer Sforim, Sholem Aleichem et Peretz, qui vont alors là créer une littérature tout en s'inspirant des thèmes de la Mishnah, du Talmud et aussi de la Bible, vont aussi créer une littérature dans laquelle se répercutera beaucoup la vie des simples juifs dans les villages, les shtetler, et qui va avoir un énorme succès et qui va être diffusé dans toute l'Europe orientale par le biais des journaux et aussi par le biais de petits livres populaires qui vont être distribués par des colporteurs, par exemple.
Jean Baumgarten, nous sommes dans une émission sur le yiddish. Alors je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du yiddish et de la culture yiddish. J'avais envie de vous demander, est-ce que, comme toute langue, le yiddish a une singularité syntaxique, grammaticale, lexicale et une manière très originale d'appréhender le réel? Je pensais, pour accentuer la question, vous raconter cette histoire. Ça se passe à Brooklyn, l'histoire de ce juif américain new-yorkais qui est en procès et qui doit comparaître devant le juge. Lorsqu'il se présente, il s'aperçoit qu'on lui a attribué une interprète. Furieux, il se plaint. « Vous croyez que je ne parle pas assez bien l'anglais pour vous? Sachez, monsieur le juge, que j'étais toute ma jeunesse dans l'une des meilleures écoles de la ville. Ensuite, j'ai étudié à l'université de Harvard. Alors j'espère que vous comprenez à présent l'inutilité de cet interprète. » Le juge se penche alors vers l'interprète et lui demande en yiddish « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Alors, j'ai l'impression, quand je lis ou j'entends ce genre de blague, du fait de ses origines multiples dont est composé, vous en avez parlé, le yiddish, de tous ces paysages, de ces patries, de ces horizons, qu'il donne à ses locuteurs une forme de joie de vivre, et là vous l'avez bien souligné, et une colonne vertébrale, c'est intéressant parce que vous avez utilisé cette expression, une colonne vertébrale existentielle qui fait ressentir que tout est possible, que toutes les portes peuvent s'ouvrir. Et je pense ici à Kafka et à son célèbre discours sur la langue yiddish que nous avons évoqué, où il conclut par cette réflexion : ce que fait le yiddish, c'est de vous rendre capable de supporter la peur, car le yiddish vous communique aussitôt une confiance en vous-même qui peut tenir tête à la peur et se montre plus fort qu'elle.
Jean Baumgarten. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce, disons, pour parler de cette vision du monde qui serait véhiculée par le yiddish, je pense que pour employer des termes de la Kabbale, et, bon, on pourrait dire que l'hébreu était bon, d'abord la langue la plus prestigieuse et une langue aussi qui massivement imprégnait tous les aspects de la vie religieuse, de la vie sociale. Et qu'il y a une sorte de tzimtzoum, enfin de retrait de ce yiddish au moment où les langues vernaculaires deviennent des langues de savoir, des langues de culture, des langues d'éducation, et que c'est, entre guillemets, ce vide va être rempli par cette langue, et dans laquelle il y aura, je pense, d'abord une sorte de distance humoristique par rapport au monde environnant. C'est-à-dire que c'est un moyen, comme vous l'avez très bien dit, de se défendre, de ne plus avoir peur. C'est d'avoir un espace à soi où exprimer vraiment l'intime, l'affectif, tout ce qui est vraiment lié au plus profond de la vie juive. Et puis, par rapport, parce qu'il y a toujours ce jeu entre nous et les autres, entre le dedans et le dehors, eh bien, il y a aussi beaucoup cette distance parodique, humoristique, qui donne une positivité, une inventivité, une créativité, une joie de vivre, qui repositionne vraiment dans une langue qui donne du courage pour vivre, qui permet, par les jeux de mots, par la parodie, par l'humour, de lutter justement et de combattre contre toutes ces forces qui veulent vous anéantir. Mmh. Je crois qu'il y a ces deux dimensions qui donnent à la langue yiddish cette saveur, et aussi c'est une langue de l'intime, une langue de l'affect, et une langue que l'on parle entre soi, en se comprenant.
Alors, vous venez d'évoquer la langue de l'intime. Je pense à cette célèbre histoire que m'avait raconté mon ami Hugues Zisman il y a quelques années. C'est deux enfants, un frère et sa petite sœur, et qui jouent au papa et à la maman. La petite sœur demande comment on fait pour jouer au papa et à la maman. Alors, le frère dit qu'il faut aller dans la chambre des parents. Et après, demande la petite sœur. Bah, après, dit le grand frère, on se déshabille. Et après, demande la petite sœur. Après, dit le grand frère, ben après, on se met sous les couvertures. Et après, demande la petite sœur. Après, dit le grand frère, on éteint la lumière. Et après, demande encore la petite sœur. Après, dit le grand frère, après, on parle yiddish. Voilà. Je crois que c'est à la fois une blague, mais c'est en même temps une histoire qui raconte peut-être de manière très, très rapide cette intimité que vous avez évoquée. On le sent très très bien, on sent cette force, c'est à la fois, il y a un paradoxe, c'est à la fois très fort, très expressif et très intime, et en même temps cette joie qu'on a évoquée ou fait ressentir dans cette musique qu'on appelle la musique klezmer, qu'on a fait entendre il y a quelques minutes. Et j'avais pensé un jour à cette formule concernant cette musique qui swing au rythme de la langue yiddish, que le klezmer, c'est le jazz du yiddish. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Baumgarten?
Oui, tout à fait. Bon, d'abord, c'est une langue qui est comme une éponge, qui a absorbé des éléments, des cultures environnantes sans qu'elles se convertissent, disons, aux langues majoritaires. C'est ça qui est extraordinaire, c'est à la fois de pouvoir s'imprégner, de pouvoir assimiler beaucoup d'éléments de la culture, des langues avec lesquelles vous êtes quotidiennement en relation, mais tout en restant soi. Et c'est ça l'extraordinaire donc de ces langues juives, c'est d'être à la fois très en relation avec le monde environnant, mais tout en restant aussi bien au niveau de la syntaxe, au niveau de la morphologie, au niveau du vocabulaire, au niveau des composantes de l'hébreu, de l'araméen, restant une langue vraiment autonome, particulière, spécifique, qui permet de rester soi-même.
Mmh. Alors moi j'ai l'impression que c'est une langue de l'humour, on vient de le dire, c'est une langue de l'intime, on l'a souligné aussi, c'est une langue de la confiance, on l'a vraiment vu dans le texte de Kafka, et j'aimerais ajouter une langue de l'espérance. Je pense à ce très beau texte que vous connaissez d'Éric de Luca, qui raconte son pèlerinage en Pologne, à Varsovie, et ensuite à Auschwitz et Birkenau, et il raconte son errance silencieuse entre les blocs, dans l'obscurité de certains étages souterrains, et puis il raconte comment, dehors c'était le printemps, je cite, c'est son texte maintenant, les pupilliers avaient des bourgeons et se dressaient bien droit derrière le mur des exécutions du bloc numéro 11, derrière les fils barbulés qui conduisaient autrefois le courant de haute tension, comment il s'y frotta bien la main et la paume sur la rouille, il raconte comment le fer finit dans les cendres de l'oxyde, il raconte la potence où fut pendu Rudolf Höss, le commandant du camp, et ce souvenir qu'il eut à ce moment-là, les mots « Ich bin wieder da »,« Je suis de nouveau là », inscrits sur la pancarte suspendue au cou des détenus qui avaient tenté de s'évader. Et il dit « Ich bin wieder da »,« Je suis de nouveau ici », pensais-je, c'est lui qui écrit, « sous la potence de Höss, me voici à nouveau, commandant, je porte ma pancarte gravée dans ma tête, c'est mon drapeau et ton échec. Le peuple que tu voulais effacer » a réussi à crier hors des livres jusqu'aux oreilles d'un étranger, né, après et loin. Je suis dans l'écho de ce cri. C'est la raison pour laquelle je suis de nouveau là, et même si c'est la première fois. Et Éric de Luca raconte Auschwitz, il raconte aussi le camp de Birkenau, qui est situé à 3 km plus loin. Il raconte les décombres et l'odeur et le silence d'aujourd'hui et les cris d'alors, le cri de ces enfants orphelins du ghetto de Lodz qui disaient « Mir willen nicht starben », nous ne voulons pas mourir. Et les enfants du ghetto de Lodz ne sont plus là, mais, dit-il, il y a leur cri dans cette langue yiddish qui fut parlée par 11 millions de personnes en Europe de l'Est et qui aujourd'hui résiste dans quelques banlieues et chez quelques grands-mères. Et il termine son texte en disant « Je revins en Italie et n'écrivis pas une ligne, je me procurerai une grammaire, un dictionnaire de yiddish et je commençais. Aujourd'hui, je lis lentement des pages d'Isaac Singer dans cette langue mère brûlée. Un jour, elle renaîtra, ce sera sûrement par les chansons et alors, il y aura aussi un napolitain, au moins un, pour les chanter. »
Magnifique texte.
Jean-Paul Martin.
Là, on trouve vraiment beaucoup d'éléments de l'histoire de cette langue qui a donc été parlée par des millions de juifs en Europe centrale et orientale et aussi avec beaucoup de dialectes spécifiques. Donc, c'est une langue d'une très grande richesse et c'est pour cela aussi que les linguistes qui ont longtemps, notamment au XIXe siècle, considéré cette langue comme une sorte de jargon, enfin de patois sans grand intérêt, maintenant, malgré le fait que beaucoup de yiddishophones, de locuteurs aient disparu, à la fois en raison de la Shoah, mais aussi de l'assimilation linguistique, se sont rendus compte combien ces langues étaient importantes pour comprendre comment naissent, comment se développent les langues et quelles sont leurs fonctions sociales, symboliques. Et là, on a vraiment, de par la richesse de la littérature, la richesse des textes, et aussi parce que grâce à beaucoup d'ethnologues, d'ethnographes, de folkloristes, etc., on a beaucoup d'enregistrements qui donnent vraiment la mesure de la complexité, de la diversité et de la créativité de cette langue tout à fait infinie. Actuellement, alors effectivement, la Shoah a été pour la langue yiddish une sorte vraiment de cimetière de cette langue. Beaucoup de locuteurs de yiddishophones ont été massacrés dans les camps, mais on sait que l'avenir et la vie des langues sont extrêmement complexes, même si on sait qu'il y a beaucoup de langues dans le monde qui disparaissent, on peut dire, tous les jours. Il y a aussi, on peut dire, des miracles, il y a aussi des foyers qui continuent à parler le yiddish. C'est d'abord beaucoup ce qu'on appelle l'ultra-orthodoxie, enfin, que ça soit à Brooklyn, que ça soit à Anvers, que ça soit en Israël, ou aussi pas mal en Europe orientale, il y a donc ces foyers dans lesquels le yiddish reste la langue principale, enfin la langue véhiculaire, la langue vernaculaire. Et aussi, dans les yeshivot, bien sûr, on étudie le Talmud, on étudie les grands textes, les grands commentaires en araméen et en hébreu, mais le maître transmet et commente et interprète en yiddish. Donc il y a ce milieu-là qui est très important. Et il y a aussi un milieu de juifs, disons, laïcs, qui, après toute cette longue période durant laquelle ils ont été un peu coupés de ces racines juives, reprennent pied dans le judaïsme par la langue, par le yiddish et par cette formidable, extraordinaire culture folklorique, théâtrale, littéraire. Et que ce soit à la Maison de la Culture Yiddish, que ce soit au Centre Medem, on voit combien ces lieux vivants dans lesquels le yiddish est une langue de culture, mais aussi une langue parlée, une langue vivante, combien cette langue permet de rejudaïser, disons, des fils, des petits-fils de cette génération qui a été tout à fait traumatisée par la Shoah, de reprendre pied et de retrouver toute la saveur et toute l'intimité du yiddish.
Alors, merci vraiment Jean Baumgarten pour cette belle leçon sur cette langue yiddish. On est parti de Kafka, on aurait pu évoquer les influences de ce Kafka yiddishisant sur la littérature américaine moderne. On avait évoqué la semaine dernière avec Malamud, Roth et d'autres encore. Merci pour cette belle leçon à la fois d'histoire, de littérature et d'espoir, parce qu'on a senti dans les derniers dans votre dernière réponse à quel point le yiddish est dans sa résurrection et ce n'est pas une langue ni morte ni qui va mourir mais qui a de très beaux jours devant elle et comme le dit Eri de Luca qu'on a cité, un jour elle renaîtra mais elle est déjà en train de renaître à la fois par les chansons mais aussi par tout le travail que font les professeurs tels que vous, les chercheurs tels que vous. Je vous remercie, c'était un très beau moment de dialogue à la fois aujourd'hui et la semaine dernière concernant le Purim Spiel. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui à la prise de son, Mathieu Touraine, à la réalisation, Dany Journeau. Kol Touv, Leitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.